Stop, stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé en fait.
MJV, c'est vous qui représentez le système.
Il est 9h40 tout pile, vous avez choisi France Inter et c'est une bonne idée.
C'est énorme ce qui s'est passé, les chéris.
Vous êtes en direct, allez-y.
Nicolas Demorand entame sur Inter sa troisième matinale. Patrick Cohen en ouvre une deuxième sur Europe 1 après 7 saisons de France Inter. Jean-Jacques Bourdin anime ses matins depuis 16 ans. Mon invité en reprend pour une 10e année après les matinales de Canal+, d'Europe 1, d'Itélé. Il est arrivé en septembre sur France Info. Forçat ou accro au réveil, les doigts dans la prise de l'info. Regard sur l'évolution de l'info en continu. Il était dès le démarrage d'Itélé sur les plateaux. Regard sur cette nouvelle concurrence aussi du matin entre la télé et la radio. Match de sons, d'images et de petites phrases qui se mêlent instantanément sur le web.
L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Et bonjour Bruce Toussaint.
Bonjour.
Qui a fait l'énorme effort de monter 2 étages parce que France Info est au 4e étage de la maison de la radio. Et nous au 6e, matinalier de France Info Radio depuis la rentrée à 8h30. Vous basculez sur le canal 27 en télé donc pour votre interview politique menée avec Jean-Michel Apathy. Vous êtes également l'animateur de C'est dans l'air sur France 5 les vendredis et les samedis. Avec Caroline Roux d'ailleurs, cette émission phare, vous l'avez reprise après le départ d'Yves Calvi. L'émission elle est restée très très performante, elle n'a pas souffert hein, du départ d'Yves Calvi. Yves Calvi, lui, il est revenu sur Canal+, cette saison, avec l'info du vrai, un copier-coller de la formule de C'est dans l'air. Je crois que ça n'a échappé à personne, exactement la même formule, et ça ne marche pas du tout. À votre avis, pourquoi ?
Bah parce qu'on préfère l'original à la copie.
Non, vraiment ?
Ça paraît évident. Moi, je pense que c'est surtout l'accès de Canal+, qui est en grande difficulté, et donc c'est difficile de réussir quoi que ce soit sur cette case.
Ah oui, c'est ça. C'est la case qui est sinistrée.
La première cause, je dirais que c'est ça.
Voilà, c'est voilà. Ça. C'est-à-dire que ouvrir en clair, de toute façon...
C'est compliqué, là.
C'est compliqué. Allez, un petit tour d'actu des médias. Delphine Ernotte, comme les autres dirigeants de l'audiovisuel public, a remis au ministère des pistes de réforme. Elle en a fait part au cadre de France Télévisions, compte rendu dans Le Monde. D'ailleurs, il faut bien savoir que dans le dossier de l'audiovisuel public, plus rien ne se dit dans la presse ou par voie à peu près naturelle, tout fuite. Parmi les propositions en région, j'en ai retenu une, aller au-delà d'un rapprochement, France 3, France Bleu, associer l'info locale à la presse quotidienne régionale, ce qui reviendrait éventuellement à une alliance publique-privée. Hier, la télé alternative de la gauche mélenchoniste a proposé un point d'étape à ses 20 000 contributeurs. Le Média, L majuscule, M majuscule, c'est son nom, a annoncé dans la nuit avoir franchi le 1 000 000 d'euros de dons récoltés. Au menu de cette future chaîne numérique prévue pour le 15 janvier, des partenariats avec des chaînes YouTube consacrées à l'histoire, à l'économie, mais aussi à l'humour. Des conférences interactives également, dans un but d'éducation populaire. Et le fameux contre-JT de 20h pour lequel une rédaction sera constituée. Le Média a de l'autodérision en octobre. Il nous en donnait un petit avant-goût parodique.
Tout d'abord, des nouvelles de notre auguste leader. Après une nuit sans problème particulier, notre bien-aimé Jean-Luc a pris un solide petit déjeuner.
Voilà, c'était Aude Rossigneux au micro. Bruce Toussaint, vous avez une réaction à ce que vous venez d'entendre ? Un contre-jeté de 20h ?
C'est drôle.
Oui, c'est drôle.
On n'a pas trop l'habitude avec la France Insoumise. Donc ça...
Qu'elle nous fasse rire ?
Oui.
D'accord.
Non, l'humour n'est pas leur trait de caractère numéro 1.
Non, un JT de 20h, ça vous fait pas rire ça ? Un JT de 20h, 30 ans après la création des chaînes d'infos continues, à l'heure des réseaux sociaux, où précisément le rendez-vous s'est complètement délinéarisé. L'info, elle est partout, elle est tout le temps et c'est devenu très très difficile de rassembler des gens sur un canapé en famille à 20h. Ça vous fait pas rire qu'on propose un contre-média, une contre-proposition avec un JT de 20h ?
C'est un clin d'œil, je pense. Enfin, j'espère. Sinon,
il va vraiment être à 20h.
Bah, bon courage, les gars.
Pourquoi ?
Ben parce que c'est dur de faire ce métier. Moi, je trouve ça très bien, cette initiative. À force de taper sur les médias en permanence, ben, montrez-nous. On a hâte de voir. Je dis ça au premier degré.
On vous a proposé un JT, vous, déjà ?
Un JT de à la France Insoumise ?
Non, pas à la France Insoumise. Un JT de 20h ou un JT de 13h ?
M6, 19h45 à la création.
À la création, ça a failli être vous.
Et pourquoi ça a failli.
Et pourquoi ça s'est pas fait?
Ben parce que ça s'est pas fait pour des tas de raisons. Les mystères du mercato.
Les mystères du mercato. Bonjour Cyril Petit.
Bonjour.
Rédacteur en chef central au JDD. Vous allez nous parler alors de la polémique qui a agité toute la semaine dernière autour de Paris Match. Mais juste un mot d'abord, vous qui êtes un grand spécialiste de la presse quotidienne régionale, associé des rédactions de la PQR à France 3 et France Bleu, vous, ça vous évoque quoi?
Bah alors, certes, ils traitent la même info, la proximité. Donc sur le papier, ça semble une bonne idée. D'ailleurs, il y a beaucoup de partenariats très souvent avec les France Bleu ou les France 3 et la presse quotidienne régionale sur des événements très ponctuels. Après, la presse quotidienne régionale est déjà elle-même très regroupée, hein, avec des grands groupes de presse. Alors si en plus...
Hyper concentrée.
Hyper concentrée.
Toute la presse régionale française est entre les mains de quoi? 7-8 propriétaires?
Oui, une petite dizaine de groupes. Il y a très peu de zones où on a une concurrence. Hein. On cite la Bretagne, le Télégramme versus Ouest France. C'est un des seuls endroits où on a une vraie concurrence et c'est un des endroits où on vend le plus de journaux, donc il n'y a pas de secret. Pour que ça marche, pour que l'info soit bonne, il faut de la concurrence, il faut du pluralisme.
Il faut du pluralisme, donc tout regrouper comme ça, voilà, bref, ça laisse réfléchir. Alors je l'ai dit, Paris Match, qui appartient au même groupe que votre journal, le JDD, le groupe Lagardère, a publié deux photos dans sa précédente édition, deux photos de l'audience du procès Mera, dont l'une où l'on voit Abdelkader Mera dans le box des accusés, barbe, lunettes et demi-sourire, Cyril. Ça a fait beaucoup réagir. Hein.
Un cliché pris 5 minutes avant le verdict, sans doute au smartphone, une photo exclusive, mais interdite par la loi. Le parquet de Paris alors a immédiatement ouvert une enquête pour en trouver l'auteur. Le risque pour l'hebdomadaire, amende et retrait du magazine des points de vente.
Voilà, alors l'hebdo est resté en vente finalement, l'enquête se poursuit, mais cette affaire, elle, repose la question de la pertinence 136 ans plus tard de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Alors, c'est un texte fondateur pour nous journalistes et pour l'information. Son article 38 ter stipule que tout enregistrement de son ou d'image est interdit dans l'enceinte d'un tribunal. Alors pour trois raisons, éviter de troubler la sérénité des débats par la présence de photographes et de leur matériel, préserver la présomption d'innocence et ne pas transformer le procès en spectacle.
C'est ça, donc trois raisons vraiment fondamentales. Deux exceptions, des exceptions, il y en a eu beaucoup depuis 1985. La loi autorise que certains procès soient filmés, lesquels?
Oui, alors depuis 1985, il y a en effet cette exception. Si les procès ont, je cite, une dimension événementielle, politique ou sociologique, ça a été le cas 5 fois, notamment pour les procès Barbie en 1987 et Papon en 97. Dans le cas du procès Mera, des familles de victimes avaient, avant le procès, demandé qu'il soit filmé. La demande avait été refusée, alors Paris Match a quand même publié cette photo après le procès. De ce fait, Paris Match a enfreint la loi, mais ils se sont défendus en parlant d'un choix délibéré, justifié par la, je cite, portée historique de ce procès.
Voilà, alors on va faire un petit détour parce que la diffusion de l'image d'un des frères Mera, elle fait aussi polémique parce qu'on est en plein dans une affaire de terrorisme. Ça s'ajoute au dossier et à la réaction.
Oui, alors justement, dans le dernier numéro de Match, donc celui qui a suivi la publication de cette image, l'avocat des victimes a défendu la publication de cette photo. Il a dit « Pourquoi l'assistance pourrait-elle voir l'accusé et pas le grand public ?» Or, depuis l'attentat de Nice, notamment, certains médias ont arrêté de diffuser les portraits des terroristes pour éviter leur starification. Il y a eu un grand débat à ce sujet-là. D'autres continuent, mettant en avant le droit à l'information. Là, c'est pas une histoire de droit, c'est une histoire de ligne éditoriale.
Voilà. En revanche, donc, la loi fixée sous la Troisième République, est-elle anachronique? C'est la question que tout le monde se pose, alors que nous sommes abreuvés d'images amateurs et que les procès sont live tweetés. La réflexion, elle est donc urgente sur le sujet, Cyril.
Oui, il faut poser tout mettre sur la table et se poser la question. À l'entrée des prétoires, aujourd'hui, des panneaux interdisent l'utilisation des smartphones. Alors, dans les faits, les live tweets, sans photo, évidemment, sont tolérés. C'est un des combats quotidiens que mènent contre des magistrats réticents les journalistes judiciaires. D'ailleurs, ces journalistes judiciaires sont montés au front, ont été en colère contre Paris Match, puisqu'ils ils craignent que ce passage en force verrouille désormais leurs conditions de travail.
Voilà. Et alors, quelles seraient les conséquences si on ouvrait les procès à l'image photographique? C'est pas tellement aujourd'hui la présence des photographes et de leur matériel,
non,
parce que les appareils photo sont beaucoup plus petits, beaucoup plus silencieux qu'avant. Le problème, c'est comment on utilise une photo, Cyril?
Oui, puisque la photo, elle fixe un moment très bref, parfois hors du contexte, accusé, souriant, en colère ou triste. Quelle image on diffuse hors du contexte, sans orienter les opinions? Et puis, est-ce que ce ne serait pas un premier pas vers la diffusion tapageuse de procès en direct, comme on l'a vu notamment récemment en Afrique du Sud avec le procès Pistorius?
De passer à la version télé.
Exactement, d'aller un peu plus loin encore dans les images. En France, en 2017, on a quand même un vieil outil qui permet de rendre compte visuellement et avec talent des procès. Ça s'appelle les croquis d'audience, un genre journalistique à part entière dont il serait quand même dommage de se passer. passer.
Vous vous en passeriez, vous, Bruce Toussaint, des croquis d'audience?
Moi, je suis assez libéral sur ces questions-là. C'est que je pense qu'en effet, on devrait mettre des caméras dans les pour les procès d'assises. En effet, oui, c'est une position. Alors après, on peut la discuter.
Oui.
Mais je pense, oui, qu'on devrait le faire. On devrait peut-être le faire de façon expérimentale dans un premier temps, faire une transition, mais aller vers ça. C'est ce que je souhaite.
L'instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Bruce Toussaint, invité de l'Instant M, animateur de C'est dans l'air, je l'ai dit tout à l'heure, et de ses polémiques sur France 5 la saison dernière. On vous découvre prenant les rênes de la matinale de France Info Radio, surprise. On ne vous y attendait pas. Ça n'a pas forcément été bien pris dans la maison au départ. Ça a même suscité la méfiance. On a vu passer quelques tracts. Un visage télé à France Info, c'est la fin des haricots.
Bah écoutez, oui. Bah, j'essaye chaque jour de démontrer que je suis à ma place.
C'est ça.
Modestement.
Mais vous comprenez que c'était pas dans l'ADN et c'était pas dans l'histoire de cette radio?
Comme moi, je me vois pas comme une star de la télé, j'ai du mal à le comprendre, mais je peux tout à fait imaginer que ça ait pu susciter quelques réticences, ça ne me choque pas.
Voilà. Alors, sur une radio généraliste, la matinale, c'est une enceinte, c'est un rendez-vous avec une personnalité très forte, avec une voix très forte. Sur une radio d'info en continu, la matinale, à la fois, elle se distingue et en même temps, elle s'inscrit dans une grille continue. Puisque on en revient toujours à ce terme clé.
Très juste. La star, c'est l'info. Donc, il n'y a pas de star de la matinale.
La star, c'est l'info.
La star, c'est l'info.
D'accord. Ouais. Donc, c'est pas vous.
Non, c'est pas moi.
D'accord.
Donc, ça veut dire que la grille de la matinale, pour rentrer un peu dans la technique, dans la cuisine, elle se fabrique vraiment en fonction de l'actualité et de l'information. Donc, il n'y a pas de place pour l'ego.
Pour l'ego. Alors,
ni le mien, ni celui d'éventuels chroniqueurs. C'est pas
alors
le sujet.
Les chroniqueurs, justement, parce que c'est quand même un peu votre marque de fabrique, c'est de fonctionner en bande.
Ouais.
Sur iTélé, votre matinale, elle s'appelait la Team Toussaint. Et là, vous avez recréé quand même cet esprit un peu de bande avec Marie Coleman qui est revenue, avec Guy Berenbaum qui reprend plus de
Jean-Michel
place.
Jean-Michel Apathy, bien sûr,
etc.
Fanny Guinochet pour l'écho, et d'autres, la météo, Céline Dacosta. L'idée, dans des faits, de créer une petite famille.
Voilà, une petite famille. On parle d'iTélé. La deuxième année de votre matinale, la progression était telle que vous étiez alors en mesure peut-être de battre BFM, en tout cas vous vous en disiez capable, c'est vrai. La dernière fois que vous êtes venu au micro de l'Instant M, il y a pile un an, Bruce Toussaint, vous étiez d'une prudence et d'une réserve au sujet d'iTélé, mais alors quelque chose de total. Depuis, la chaîne a repris, beaucoup sont partis, d'autres sont restés, parmi eux Laurence Ferrari. On l'écoute, elle était au micro de nos confrères d'Europe 1.
Faire la grève, c'est détruire l'outil de travail. Ça a été le cas. Voilà. Le résultat, c'est que encore une fois, on a détruit l'outil de travail.
Les grévistes ont détruit l'outil de travail, votre ancien outil de travail.
On peut être pour ou contre une grève. Ça, personne peut. Mais le droit de grève, c'est un droit fondamental. Donc on peut pas nier ce droit-là.
On ne peut pas nier ce droit-là.
Non.
Là, d'accord.
Ça paraît évident.
Donc,
on a le droit d'être contre une grève.
Qui a détruit l'outil de travail à iTélé?
Il n'est pas détruit puisque la chaîne fonctionne encore.
Oui, elle est à 0,5 point de part d'audience derrière LCI qui est à 0,6.
Écoutez, ça veut dire que ça vit encore. Il y a encore des journalistes qui travaillent là-bas, qui font leur boulot. Voilà quoi. Après, moi, je ne regarde pas, donc je ne sais pas.
En 2015, vous vous déclariez à l'époque être convaincu qu'il n'y avait pas de place en France pour une troisième chaîne d'info.
Ah oui.
C'était LCI qui demandait son passage en clair. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes une demi-heure par jour sur France Info, une quatrième chaîne d'info. Donc, il y en aurait deux de trop. LCI et la vôtre.
Écoutez, on le sait, c'est un drôle de système en France où il y a beaucoup de chaînes d'information. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Moi, je pense que ce que propose France Info, c'est une approche globale. Donc radio, télé, le net, évidemment. Moi, je crois à ça. Je crois à ce modèle-là. Après, est-ce qu'il y a trop de chaînes d'info? Écoutez, j'en sais rien. Pour l'instant, elles vivent, toutes ces chaînes.
Et alors, comment vous l'avez vu évoluer, justement, l'info en continu? Puisque j'ai dit, vous étiez très très tôt dans le projet iTélé. Donc là, vous arrivez sur France Info, radio et un petit peu télé. Mais pour le coup, vous avez les doigts dans cette prise depuis très longtemps.
Oui, j'aime bien cette expression, les doigts dans la prise, ça me correspond bien. tout a changé.
C'est-à-dire
au point que, en fait, aujourd'hui, même les chaînes généralistes se sont mises au même rythme que les chaînes d'information. Et les radios, pareil. On est sur un flux, voilà, BFM, bien sûr, France Info, imprime un rythme. Ce sont ces chaînes aujourd'hui qui sont référentes. Plus que Le Monde, le JT de 20h. Moi, quand j'ai commencé ce métier, on regardait le journal de 20h. Et puis on disait, bon, maintenant, on va construire la matinale du lendemain.
Maintenant, c'est l'inverse. Ces chaînes sont devenues référentes, vraiment. C'est-à-dire qu'elles donnent le là de l'info.
Je pense.
En quoi? En termes de rythme?
En termes de rythme et en termes aussi de... c'est là qu'on commence à créer l'info. Les chaînes d'information, aujourd'hui, fabriquent énormément d'informations. Mmh. Créer de l'info, alors ça peut être de l'exclu, comme ça peut être du reportage, voilà, mais on crée beaucoup d'infos.
Est-ce qu'il n'y a pas une sensation, après deux années très 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 denses, très trépidantes, une campagne électorale extrêmement secouée, mais précédemment une année d'attentat, est-ce qu'avec le breaking news permanent qu'on a vécu pendant deux ans dans l'info en continu, il n'y a pas une forme d'anesthésie? Est-ce que c'est pas difficile pour nous tous aujourd'hui de se demander quel était en date le dernier attentat? Est-ce que c'était Marseille? Est-ce que c'était New York? C'était quand la dernière fois qu'on s'est rué sur un média d'info en continu pour regarder du breaking comme ça non-stop? C'était Trump? C'était l'ouragan? Est-ce qu'il y a pas quelque chose qui est devenu extrêmement banal et extrêmement standard dans ce temps fort de l'info?
Je crois pas. La preuve, c'est que depuis 2-3 mois, il n'y a pas d'événement majeur qui bouleverse l'actualité. Donc, on est revenu à une forme de pluralisme aussi. On reproche souvent aux chaînes d'information d'être monomaniaques. Mmh. Là, c'est pas le cas. On traite de tout un tas d'informations. Donc, le rythme a ralenti un petit peu, bien sûr, puisque l'actualité... il faut pas confondre. Ce sont pas les chaînes d'info qui dictent l'actualité. C'est l'actualité qui dicte le rythme des chaînes d'infos. Après, ce qui a changé, c'est que maintenant, ça va très vite. Mais il n'y a pas que les chaînes d'infos, il y a aussi évidemment les réseaux sociaux, tout ça. Enfin,
justement,
il y a une accélération, bien sûr.
Canal+, Europe 1 et Télé, France Info, je l'ai dit, ça c'était vos différentes matinales. Est-ce que vous n'avez pas la sensation aujourd'hui que les deux sont désormais télé et radio en concurrence frontale et mélangés dans un flux continu? Et que plus que jamais, une matinale de télé, elle est faite pour être écoutée au son?
Évidemment. On me demande souvent pourquoi est-ce que tu replonges? Pourquoi tu refais une matinale? Parce que c'est là que ça se passe. Parce que c'est le prime, et c'est devenu le prime maintenant, sur les chaînes d'information, sur les radios. France 2, Télématin, c'est la plus forte audience de la chaîne.
Oui.
Donc, la consommation du matin est la consommation premium. Donc, si on a envie de participer de façon quand même, d'être aux premières loges de ce métier et de l'actualité, ben, il faut être
la radio n'a jamais autant produit de séquences d'images qui sont reprises partout aujourd'hui. Ce sont les petites phrases d'antan. Aujourd'hui, c'est une séquence filmée et qui rentre en concurrence frontale avec les télés.
Oui, mais ça, c'est parce que les réseaux sociaux, Twitter, tout ça alimente ça. Quand on fait le matin sur France Info, on a deux heures d'information. Chaque séquence peut être découpée en 30-40 secondes et hop, diffusée immédiatement sur les réseaux. C'est très important.
Alors, dans ce match des petites phrases, il y a votre interview à 8h30 en duo avec Jean-Michel Apathy.
Oui.
Jean-Michel Apathy est devant, vous êtes derrière, mais vous remontez au créneau quand il le faut. Pour le coup, votre programmation, elle offre une image assez fidèle du renouvellement de la vie politique. Beaucoup de ce qu'on aurait appelé pendant très longtemps des secondes, des troisièmes, des quatrièmes couteaux, des gens qu'on ne connaissait pas, qui sont à votre micro, Bruce Toussaint.
Oui, et ben on n'a pas le choix. Et on est là pour... les gens qui sont invités doivent être représentatifs de la classe politique.
Mm.
Donc c'est pas nous, encore une fois, qui fixons les règles. Les gens ont voté. Ils ont voté pour des nouveaux partis, des nouveaux mouvements, des nouvelles personnalités. On les reçoit.
Il y a une forme de crash test.
Ah, c'est parfois difficile pour certains ou certaines,
bien sûr.
C'est dur, bien sûr.
C'est-à-dire qu'à vous deux, vous les prenez en ciseaux, il y en a qui en sont sortis quand même.
Non, mais attendez, c'est pas un jeu de massacre.
Non.
Mais c'est pas le but d'ailleurs. Il peut même nous arriver parfois de retenir les coups.
Merci beaucoup, Bruce Toussaint. Merci d'avoir grimpé deux étages. On vous laisse redescendre. C'est la fin de cette émission. C'est la fin de l'Instant M. Bonjour, Ali Rebéi.
Bonjour, Sonette Villers.
Alors, grand bien vous fasse.
Quelle politique de santé publique pour soigner les addictions?
Les addictions au réveil matin? Vous
exactement,
avez quelque chose?
Et des personnes addictes trop souvent considérées comme des délinquantes, comme des personnes manquant de volonté et pas assez comme des malades.
Est-ce qu'on va parler de ces fameuses cliniques privées qui agitent l'information américaine?
Si vous voulez, on peut, vous pouvez appeler au 01 45 24 7000.